Bonjour Agathe Charnay. Nous sommes avec vous pour ce livre magnifique qui s'appelle Peut-être le hasard et qui est sorti aux éditions Les Corps Conducteurs, qu'on aime beaucoup également. Ma première question est la suivante. Agathe, quel rapport avez-vous avec la réalité?
C'est une question très, très intéressante, surtout pour ce livre, puisqu'on est à la frontière, il s'appelle roman, mais entre l'autofiction, la non-fiction, le récit, je pense qu'on navigue vraiment entre ces catégories-là. Et je crois que ce que j'aime beaucoup, en tout cas si on parle de la réalité et de la littérature, c'est comment on peut puiser et tirer à partir du réel, des choses qui viennent ensuite nous permettre de pétrir une matière textuelle, puis littéraire. Donc la réalité, je pense que je me la prends régulièrement, ou en tout cas je me la suis prise beaucoup en pleine face. Et après, qu'est-ce qui ensuite peut être trafiqué, comment est-ce qu'on sublime les mondes, comment est-ce qu'on les inverse, comment est-ce qu'on les enchante pour créer une autre dimension. Moi, je viens du théâtre, je suis metteuse en scène,
oui.
Et je suis autrice de théâtre. Donc du coup, on joue tout le temps, on est des trafiquants, nous, on joue à mentir, on joue à faire faux, on joue à faire croire. Et en même temps, il faut que ça vienne d'une nécessité très, très juste et très, très interne presque, très, très intime. Donc je dirais que ouais, j'aime la trafiquer, j'aime à la fois la vivre et en faire tout de suite autre chose après.
Parce que dans ce livre, on a l'impression que le réel s'impose avec une grande brutalité et que, en écrivant, vous nous amenez à justement essayer de recevoir cette brutalité en y mettant de l'élégance, de la poésie, en essayant de finalement atténuer le choc.
Ouais, bah, je pense au livre de Claire Marin, Rupture, oui. que j'aime beaucoup, et qui raconte aussi que l'arrivée de la maladie dans un parcours biographique, évidemment que c'est une rupture, c'est un changement de cap pour soi, pour les proches, c'est une série de deuils et de renoncements. Et ensuite, une fois que cette rupture a été vécue, il y a toujours le temps de l'après. Après la catastrophe, qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, il n'y a pas une plaine aride après une annonce diagnostique, par exemple. Mais au contraire, il y a la vie. Et c'est ça que je trouve passionnant à appréhender. Certes, il y a l'annonce et le choc. Mais ensuite, qu'est-ce qui reste à vivre? Et ça, j'ai bien aimé le travailler avec cette matière-là et me dire que ce n'avait pas été que l'histoire d'une maladie, en ce qui concerne par exemple le livre Peut-être le hasard, mais l'histoire de comment, qu'est-ce qu'on fait du monde? En fait, une fois qu'il y a eu un incendie, qu'est-ce qu'on fait de la terre brûlée? Il y a énormément de choses, il y a beaucoup de choses qui poussent sous la cendre.
Parce et que ça aussi, dans ce livre, donc, vous suivez finalement, vous nous invitez à suivre votre maman, d'abord avant que vous existiez, ça c'est assez joli, et puis petit à petit on va rentrer dans son histoire jusqu'à effectivement un diagnostic précoce d'Alzheimer. Mais justement sur cette histoire de la vie qui émerge, ce qui est intéressant dans votre vie, c'est que vous nous saisissez avec une certaine force de vitalité le fait que c'est la vie qui compte et pas le sens de la vie à cet endroit-là.
Ouais, bah ça c'est vraiment une phrase qu'un médecin m'a dite qui m'a beaucoup accompagnée, hein, qui est il y a une vie après un diagnostic. Et c'est vrai que des maladies neurodégénératives comme un Alzheimer précoce, Parkinson, Huntington, on a des espèces de couperets qui tombent et une terreur sur ce qui va survenir ensuite. Alors que c'est aussi des visions assez validistes, c'est un mot que j'aime beaucoup, démentophobe, le fait d'avoir peur de la démence, d'avoir peur dans des sociétés très efficientes, ultra-libérales, véloces, de ce qui dysfonctionne, de ce qui ne fonctionne plus, alors qu'il y a une nécessité aussi pour moi d'aller traquer la tendresse. Alors, on parle beaucoup de la joie en ce moment avec Madame Pellicot, mais il y a aussi cette idée, comme dans tout, en fait, bien sûr, on va pleurer, mais bien sûr, la joie va aussi survenir. Et puis, moi, j'ai été ce qu'on appelle une jeune aidante, ce qui est un peu spécifique dans des parcours de maladies neurodégénératives où souvent on est un petit peu plus âgé quand on accompagne un parent. Je fais partie, il y a 10 000 personnes chaque année qui sont diagnostiquées en France en dessous de 65 ans d'une maladie neurodégénérative apparentée à Alzheimer. Donc il y a beaucoup de, des dizaines de milliers aussi de jeunes aidants qui en découlent. Et je pense qu'on a on vit les mêmes drames que les personnes plus âgées. Pour moi, il n'y a pas une hiérarchie de la souffrance, mais par contre, on a des enjeux autres. On est aussi beaucoup dans la construction de nos études, de nos carrières, de nos parcours, de nos amours, de nos familles. Et du coup, je pense que cette force et cette énergie que j'ai voulu transmettre dans l'accompagnement et dans le livre, pour que ce soit aussi un ouvrage, je l'espère, de consolation et de force et pas plongé avec nous dans une histoire tragique, il venait peut-être aussi de cette fougue que du coup j'ai mise au service de la maladie, puis au service de l'écriture.
Oui, mais ça, alors on l'a d'ailleurs en intitulé, c'est assez c'est joli, vous dédicace, enfin vous commencez votre livre avec cette petite phrase des frères Karamazov, et du coup il y a cette puissance du vivant, des personnages, de la nature propre à chacun, de l'individu. Et ce qui ressort de votre livre, c'est ça aussi. C'est votre mère apparaît, mais vous apparaissez aussi en même temps en filigrane, comme vous le dites. Ce qui est quand même très troublant dans votre livre, puissant et bouleversant, c'est que votre mère s'efface petit à petit et vous apparaissez petit à petit.
La phrase des frères Karamazov, c'est une phrase d'Alyosha qui dit « Est-ce qu'il faut aimer la vie ou le sens de la vie ?» Et puis un des frères répond « Il faut aimer la vie et alors seulement on en comprendra le sens. » Et ça fait écho aussi à une phrase de Tchekhov que j'aime beaucoup dans « Les trois sœurs » et qui me fait pleurer à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi. « Il neige, regardez, il neige », c'est une des sœurs qui dit ça. Où est le sens ? Et cette question du sens, en fait, c'est assez joli parce que cette phrase, c'était l'ouverture du mémoire de ma mère. Elle a fait un mémoire, une reprise d'études, un DEA, quand elle avait 40 ans. Elle a eu un moment de... j'ai beaucoup laissé de choses de côté. Maintenant, je reprends ma... Elle était enseignante en philosophie. J'ai envie de poursuivre mes études. J'ai envie de progresser dans ma carrière. Donc, je vais faire le mémoire de maîtrise, quoi, le DEA. Et j'ai retrouvé, après sa mort, ce mémoire. Et c'était l'épigraphe. Elle l'avait mis en ouverture. J'ai trouvé ça extrêmement beau par rapport à ce qu'elle avait vécu ensuite. En plus, un mémoire, Alzheimer, enfin, on est quand même au cœur du symbolique. Et je me suis dit, ah, son mémoire n'a jamais été publié. Eh bien, cette épigraphe va être publiée. Et ça va ouvrir notre histoire à toutes les deux, son histoire à elle que je raconte et la mienne. Et en effet, pour moi, c'était une grande question sur l'effacement et sa place à elle dans le livre et ma place à moi. Donc, je voulais tisser un peu deux générations de femmes, une née dans les années 60, une née dans les années 90, et qu'est-ce que c'est aussi les destinées sociologiques, féministes de ces femmes, comment ça correspond. Mais si je voulais faire de l'autofiction en féministe, je pouvais pas écrire sur l'effacement de ma mère, j'avais peur de l'effacer encore à mon tour, d'avoir une position de surplomb pour quelqu'un qui a en plus perdu les mots, qui a très vite perdu la capacité à se dire, à se raconter, qui dans sa vie s'est beaucoup décrite comme quelqu'un d'effacé, quelqu'un qui n'arrivait pas à imposer sa parole, sa pensée, sauf en cours, où elle s'épanouissait énormément. Et je me suis dit, oh là là, si j'écris sur ma mère, c'est... Encore une fois, je vole quelque chose. Donc, je me suis dit, je vais écrire sur ma relation à elle. Et c'est pour ça qu'il y a ce « tu ». Je m'adresse à elle tout le temps, comme si elle pouvait me répondre, comme si je voulais entamer poursuivre un dialogue et raconter ce que moi, je ressens vis-à-vis d'elle, mais essayer de ne pas voler sa vie. Et ça, c'était extrêmement ténu comme frontière pour moi. Et c'était le plus important, je crois, quand j'ai fait lire le manuscrit aux proches. Pas me dire j'ai volé son histoire. Mais j'ai plutôt essayé de poursuivre un dialogue interrompu par la maladie, puis par la mort, par l'absence.
Parce qu'il y a, au milieu de ce livre, il y a vraiment un passage totalement bouleversant. On a l'impression que vraiment vous lui adressez une lettre. On a ce moment où, en fait, donc on a cette impression, effectivement, que vous écrivez à la fois pour vous. Et là, la réflexion que je me suis faite, c'est que quand on ferme votre livre, on se demande si vous avez écrit un peu pour les deux, un peu pour oublier et en même temps pour vous souvenir.
Je crois qu'il y avait un peu plusieurs couches dans cette écriture. Il y a la première qui est la plus instinctive, qui est l'écriture pour soi. Bon, évidemment, on écrit toujours pour soi, mais la plus égoïste, la plus viscérale. pendant que je vivais tout ça, je prenais beaucoup de notes sur mon téléphone, dans les petites applications, la note. Et j'étais dans un état de dissociation. Donc, je pense, dans les moments les plus difficiles, mon réflexe était de prendre mon téléphone et d'écrire des bribes de mots, de phrases sur ce qui était en train de se vivre, notamment dans des scènes, voilà, dans les phases terminales de la maladie, qui sont quand même beaucoup plus difficiles et beaucoup moins supportables sur les questions de dignité. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, cette matière-là, finalement, au moment d'écrire, je l'ai très peu utilisée parce qu'elle appartenait, quelque chose de soi à soi. Les seules choses que j'ai gardées, ce sont les phrases de ma mère. Parce qu'il y avait des phrases très, très belles qui surgissent un peu comme avec les enfants. Vous savez, on note les premières phrases des enfants, les premiers mots. Parfois, nous, on se dit ça va être les derniers. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'inverse, de l'inversion totale qui se produit, y compris dans ce qu'on peut attraper du langage. Voilà, l'enfant qui ne sait pas, c'est celui qui ne sait pas parler. Elle retombait dans cet état d'infance. Donc, il fallait noter ce qui restait de possibilités de mettre le monde en verbe. Et puis, voilà, après, quand je me suis attelée en me disant je vais faire un texte, et peut-être qu'il sera une pièce de théâtre, peut-être qu'il sera un livre, je ne sais pas encore ce qu'il va être, je ne peux pas retranscrire tel quel mes petites notes. Sinon, ce sera un témoignage. Et ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, j'aimerais que la littérature puisse être un endroit autre, un endroit où on peut être, comme je disais, on peut trouver consolation, on peut trouver une autre façon d'avoir accès à ces récits-là. Et on a besoin de la littérature pour ça. Donc, j'ai laissé ça et j'ai réfléchi plutôt à des procédés plus formels, à des procédés stylistiques. Il y a le tu qui est arrivé très rapidement, le fait qu'on s'adresse à la mère, la structure autour du cinéma. Je trouvais ça très beau de se dire, est-ce qu'on peut raconter une vie comme un montage, finalement, de cinéma. Au fond, les films de nos vies, c'est ça. Qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on met en lumière, qu'est-ce que les autres se souviennent, de quoi ils se souviennent quand ils pensent à vous. On n'est pas maître complètement du montage, donc je me suis amusée, et puis c'est un montage à trous, parce que la mémoire c'est un montage à trous, donc j'ai travaillé sur ce principe-là un peu cinématographique et fragmentaire, en me disant j'écris pour moi, pour ma mère, j'écris pour les morts, les absents, les absentes. C'est Vinciane Després dans Au bonheur des morts, que j'adore, qui dit que faire vivre les morts, c'est continuer de raconter leur histoire. Et si on cesse de raconter l'histoire des défunts, ils disparaissent. Donc on a un devoir de récit. Et enfin, j'écrivais peut-être de manière plus large pour les autres personnes concernées, pour la jeune moi que j'avais été aussi à 25 ans, qui s'est trouvée très démunie, avec une grande absence de ressources. On parlait pas beaucoup, même il y a déjà 6-7 ans, de l'aidance et des jeunes aidants. C'est des sujets qui commencent à arriver dans les espaces médiatiques. Et je m'étais sentie très, très seule. Donc, j'ai mené presque une enquête pour savoir qu'est-ce que c'est Alzheimer précoce, qu'est-ce qui arrive à ces personnes, comment on peut les aider, où est-ce qu'elles finissent leur vie, comment, dans quelles conditions. C'est des choses qui très matérielles, mais qui m'obsédaient absolument. Et je me suis dit, on veut toujours écrire un peu le livre qui manque ou qu'on aurait aimé lire. Sinon, je ne l'aurais pas écrit si j'avais trouvé exactement la ressource qu'il me fallait. Donc, j'ai aussi écrit pour ça. Donc, c'est des choses entre l'ultra-micro et l'ultra-macro. Quand on fait récit de soi, de toute façon, et de son expérience, c'est toujours dans l'espoir d'ouvrir. Évidemment, ma seule histoire serait intéressante, mais j'espère vraiment pouvoir l'élargir.
Et alors, ce qui est intéressant, comme vous le dites là, on le voit bien et c'est souligné, votre mère, elle voulait être critique de cinéma. Vous êtes dramaturge, votre frère est musicien. Il est aussi dans cette boucle d'accompagnement avec votre tante et votre grand-mère, et on y reviendra. Et là encore, même quand vous me répondez, il y a quelque chose de très délicat et de passionnant dans votre livre, qui est la culture comme un baume qui accompagne votre histoire.
Bien sûr. Et puis, mon père est également enseignant et il écrit. Donc, d'un point de vue bourdieusien, j'ai un capital culturel énorme et j'ai une chance, un privilège, hallucinant. Enfin, ce qu'on nous a donné d'avoir deux parents enseignants, agrégés. On a grandi à Toulouse, qui lisent Télérama et on n'a pas la télé. C'était vraiment ça. C'est fête des intermittents. Enfin, c'est la recette pour créer des intermittents du spectacle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle dans les temps qu'on traverse, mais en tout cas, je vous la donne. Et oui, du coup, on a grandi beaucoup, 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 évidemment, avec les livres, avec la chanson, énormément, avec la musique et la chanson qui qui rassemblait mes parents profondément. Et ça a jamais été un art mineur. Voilà, comme disait Claude Nougaro. Non, c'était vraiment, vraiment art majeur, la chanson chez nous. Et je pense que ça joue, évidemment, dans le fait qu'aujourd'hui, mon frère travaille dans les musiques actuelles. Et moi, dans mes pièces de théâtre, elles sont profondément imprégnées par la musique. Et la chanson est devenue ensuite la musique, la clé de contact avec notre mère quand elle est tombée malade, et notamment les chansons de films, les Jacques Demy, etc., Agnès Varda. Parce que ce qui est très très beau, et terrible à la fois, mais quand même très beau, c'est que bon, la musique, c'est une des premières choses qu'on perçoit, y compris in utero, dans la vie fœtale. Quand on est ado, c'est là où on a nos connexions synaptiques les plus fortes, et c'est pour ça qu'on se souvient autant des films de nos adolescences, et qu'on repleure devant la boum, parce que c'est un moment où on a des liens avec la musique et la mémoire qui se soudent. Et plus tard, quand il y a des assauts qui sont menés, voilà, contre nos mémoires et nos capacités à nous remémorer, je crois que c'est dans l'hypophyse, la partie pour, pardon, au neurologue s'il m'écoute, si je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est ça, la partie qui conserve la mémoire de la musique est la plus longtemps préservée. Ce qui fait que si vous avez autour de vous des personnes atteintes de maladies neuro, vous pouvez continuer de communiquer avec elles et eux par la musique, et souvent on s'en rend compte, les paroles de chansons reviennent, les mélodies, les airs, quand bien même on n'est plus capable de mettre une fourchette dans la vaisselle, hein, ce qui était le cas de ma maman. Elle a une aphasie primaire progressive, donc c'est les fonctions du langage qui sont altérées en premier, mais presque quasiment jusqu'au bout, et même jusque le moment où on l'a accompagnée dans sa mort, la musique a été là, et c'était notre formule magique, on va dire, pour contrer le tragique. C'était notre point d'accès à elle, qui la rendait complètement, et à son identité, et à une sorte d'assurance. Dans le fait de chanter, elle ne pouvait pas se tromper. Même si on faisait une boucle sur un refrain pendant très longtemps, et ben on avait le refrain. Et ça a été, ouais, un héritage qu'elle nous a transmis, qui nous a été transmis très tôt, et qui a été un immense cadeau aussi jusqu'au bout. Donc voilà, mettez de la musique à toutes les personnes qui traversent ces maladies.
Et dans votre livre, il est vraiment en question beaucoup de musique, comme vous l'avez dit. Et puis en même temps, il y a un fil conducteur avec le film Au hasard Balthazar, qui est le film culte pour votre mère. Et en même temps, ses cours aussi, qui sont en filigrane dans votre livre. En fait, il y a plusieurs fils conducteurs comme ça qui nous amènent sur des pistes. Et puis, il y a aussi la chanson des chats dans leur miaulement, leur ronronnement, des vaches, des oiseaux. Enfin, il y a du sonore dans votre livre parce qu'il y a beaucoup de corps, évidemment. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le corps est très présent de multiples façons. De cette façon-là, déjà, parce que ça chante. Le corps est présent aussi par l'odeur, quand vous parlez de l'odeur du parfum de votre grand-mère, qui est très présente avec vous et qui vous accompagne. Le corps est présent parce qu'il est jeune et puis plus vieillissant de façon accélérée et, comme vous l'avez dit, en dégénérescence. Le corps est là aussi parce que vous allez petit à petit découvrir aussi votre corps et évoquer la question des femmes et du corps des femmes. C'est aussi un livre qui est une plongée délicate, j'ai envie de dire, et poétique, tout en étant profonde, sur le corps d'une femme.
Oui, une de mes grandes questions pendant ces années d'accompagnement, d'aidance, c'est qu'est-ce qu'on fait des corps vulnérables, dits vulnérables, et qu'est-ce qu'on fait des corps des femmes vulnérables. Et ça vient aussi... alors, bien sûr, il y a toute cette dimension très organique. Et là, bon, je pense que ça vient aussi du théâtre où moi, je vois en 3D. Enfin, forcément, parce que c'est la scène, quoi. Enfin, j'écris pour l'oralité, j'écris pour les voix et j'écris pour les corps, même quand ça devient un matériau livre, on va dire, et non scénique. Mais au-delà de ça, il y avait vraiment cette interrogation-là qui s'inscrit, je crois, j'espère, dans les travaux de Pauline Chanu, qui a beaucoup travaillé avec Sortir de la maison hantée sur la question de l'hystérie. Évidemment, après, mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle-Lyon, qui a été renversement l'année dernière sur qu'est-ce que c'est aussi un corps de femme qui n'est plus fonctionnel dans ce qu'on attend de sa fonction située dans un espace social, et qu'est-ce que c'est non seulement un corps de femme qui dysfonctionne mais qui fait peur, qui se transforme, qui ce qu'on appelle désinhibé dans ces maladies-là, qui se met à danser, à chanter, à exploser en plein milieu d'un supermarché. Qu'est-ce que c'est un corps de femme qui ne fait plus rien ? Il y a aussi une chanson qui est très importante pour moi d'Anne Sylvestre, une des chanteuses préférées de ma maman, qui est Clémence en vacances, qui raconte l'histoire, qui est une chanson vraiment géniale, et qui raconte l'histoire d'une Clémence. Alors là, elle est un peu plus âgée, qui est avec son brave mari Honoré, qui n'a jamais cousu un bouton, et qui décide du jour au lendemain, elle est atteinte d'une drôle de maladie, elle ne fait plus rien. La cuisine, le ménage, le linge, les commissions, c'est fini. Pour Clémence, et la chanson, c'est Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Et après, ça, Clémence, Clémence est comme en enfance, Clémence va bien. Et je me disais, ma mère m'a toujours chanté cette chanson. Elle avait une grosse charge mentale et domestique, on va dire, très, très grosse. Un grand goût aussi du sacrifice. Hein. Il y avait vraiment ça très, très, très fort, mais très dans la rage. Enfin, c'est pas quelque chose... Elle le faisait tout en étant pas très contente de le faire, je pense. Et elle me chantait sans arrêt cette chanson. Et il y a un moment, elle est devenue Clémence en vacances. C'était elle. Elle avait rejoint cette histoire, en fait. Elle glandait jusqu'à 11h du mat en robe de chambre. Elle vivait avec un compagnon, il faisait tout, enfin, comme le font les aidants qui s'épuisent beaucoup. Et je me disais, mais oh, qu'est-ce qu'on, je le dis dans le livre, qu'est-ce qu'on va faire d'une Clémence en vacances ? Combien de temps la société supporte qu'une femme ne fasse plus rien à ce point ? Et qu'est-ce qui se passe ensuite quand la maladie évolue ? Et que y a la colère qui s'est emparée de ma mère sur la fin de sa vie. Et les gens, dans ces moments-là, là aussi, je trouve ça toujours validiste, des mentophobes, le deuil blanc, vous savez, ce qu'on appelle le deuil blanc. Quand il y a une personne qui est atteinte d'une maladie neuro, on vous incite, hein, les psychologues, etc., à faire votre deuil blanc, considérer que la personne est morte. Je trouve ça d'une violence absolue. Vous allez perdre deux fois la personne. Je comprends que ça puisse aider, bien sûr. Mais dans une société aussi validiste que la nôtre, je trouve ça très, très dangereux parce qu'on va écarter encore plus. Et donc, on disait, ta mère est tellement en colère, c'est plus elle, on la reconnaît plus. Ah, on ne veut pas la voir dans cet état. Ça pourrait, voilà. Et moi, je me disais, mais si ça se trouve, cette femme qui devient une goule, qui devient une démone, qui hurle toute la journée, ça... La frustration de ce qui lui arrive et puis une colère peut-être attique qui date d'il y a des millénaires de conditions de femmes entremêlées. Moi, je voyais ça aussi, mais c'est elle. C'est juste que c'est un elle auquel elle-même n'a peut-être jamais eu accès ou elle s'est jamais autorisée à déclencher cette colère. Parce que quand je disais qu'elle avait un peu de rage, c'était vraiment ma mère, quelqu'un de très doux et très discret. Donc, elle rentrait pas dans des désirs phénoménal, quoi. C'était plutôt j'en ai marre, très, très... Voilà, comme on fait quand on en a vraiment ras-le-bol d'un truc, mais discrètement, on va dire. Comme sa classe le fait, quoi. Quelque chose quand même qui reste sage et docile. Et là, il y avait quelque chose de l'indocile et d'une forme de folie, mais oui, dans le sens des tragédies antiques, quoi, qui étaient en train de se déployer. Et moi, je me disais, mais c'est elle, quoi. Et en lisant Pauline Chanu, en lisant Adèle Lyon, je me disais, mais oui, c'est ça. Et ça, c'est impossible de supporter ce qu'on voilà, de supporter une colère féminine à ce point. Et du coup, bah, c'est des malades qu'on va sédater énormément, en raccourcissant leur espérance de vie de façon immense. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres solutions possibles ? Je ne sais pas. Mais ça m'a beaucoup interrogée. Qu'est-ce qu'on fait des corps ? Et comment ? C'est pour ça que je parle du corps de ma grand-mère, qui a 95 ans, avec qui je passe beaucoup de temps, toujours. Et c'est des corps qu'on ne veut pas voir et qui n'ont pas leur place dans la ville. C'est très difficile dans une ville de déplacer des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit. Donc, et la vieillesse, il y a des formes de handicap qui se déploient. Donc, pour moi, c'était aussi ce livre, c'est un endroit où ces corps-là ont leur place, dans toutes leurs dimensions, et dans les explosions de joie, et dans l'observation, la contemplation tranquille des autres corps, des autres vivants. Ça, je suis écoféministe. Ça commence par la mort d'une vache, peut-être le hasard, et on décrit le corps de cette génisse parturiente qui est morte en couche, un peu comme dans un polar. Pourquoi elle est morte si jeune ? Pourquoi elle ? Et après, on arrive avec le petit âne Balthazar. Après, il y a ma mère, donc il y a un grand bestiaire dans le livre, avec les corps des animaux, mais c'est aussi pour se dire comment on repense les hiérarchies entre les corps, entre les êtres, et comment on vit dans des sociétés plus ouvertes, plus accueillantes. Pour le moment, c'est pas le cas, mais dans le livre, ils sont tous sur le même plan.
Et est-ce que finalement, ce suivi-là vous a aidé, vous, à apparaître d'une certaine façon ?
Mon corps à moi ?
Oui, vous, votre façon d'écrire, la poésie avec laquelle vous avez mis en page cette histoire. Est-ce que finalement, réaliser ça, prendre conscience de ça, comme si votre mère vous léguait un enseignement d'une certaine façon ?
Oui, je pense que ça m'a calmée de vivre tout ça. Je crois que je le dis un peu dans le livre où au début je raconte, je dis voilà, c'est ma première vraie rupture. J'ai eu 10 ans d'insouciance folle, encore une fois. Oui. Enfin, j'ai eu tellement de chance. Je suis partie de chez moi à 17 ans, j'ai quitté Toulouse. Je suis arrivée à Paris pour faire mes études. On m'a donné les conditions pour le faire. J'ai eu des bourses pour mes études, etc. en plus. Et j'ai vécu 10 ans de... cette liberté si particulière dont parle aussi Julia Carninon dans ses écrits, de ces 10 années où on fait des enfants beaucoup plus tard. On sait actuellement quels sont les questionnements démographiques qu'on traverse. Et donc, on a cette espèce de zone de liberté absolument dingue, enfin, que moi, j'ai eu la chance de vivre, où on a quand même sa chambre à soi dans une coloc, on va dire. Une profonde insouciance, quoi, qui permet des engagements, qui permet des colères, qui permet de comme dirait Aznavour, donner son avis qu'on croit le bon, pour critiquer le monde avec des envoltures. Et du coup, il y avait vraiment ça qui s'est... Voilà, je pense que j'étais assez insolente. Et je voyais très peu ma mère. Et j'étais dans quelque chose de plus tard, on se retrouvera, oui, bah, quand j'aurai cette vie de femme, là, où les gens ont des enfants. Voilà, bon, à 35 ans, c'est toujours pas arrivé, mais il y avait cette espèce de croyance qu'il y aurait un plus tard où on se retrouverait dans un monde convenu, mais que là c'était mon grand moment et que je vivais la vie qu'elle m'avait toujours poussée à vivre finalement.
Oui, vous le dites dans le livre.
Voilà, et dont elle m'avait toujours parlé, mais je le faisais en étant complètement ingrate, quoi, enfin sans me rendre compte une seule seconde que si je vivais ça, c'était aussi par tout ce qu'elle m'avait donné, mon père évidemment aussi, mais par son sacrifice à elle. Et elle était très très fière que je sois libre et indépendante. J'étais journaliste, je faisais des reportages, j'allais partout. Et puis, militante, féministe, écolo, machin. Et puis, bam, il m'arrive ça. Et ouais, ça m'a carrément calmée. Ça m'a fait me... Toujours militante, bien sûr, mais ça calme l'insolence et ça calme une certaine forme d'arrogance vis-à-vis de la vie. Voilà, à 25 ans, 25-26 ans quand ça m'est arrivé. Et il y a eu quelque chose où je me suis rapprochée de ma mère d'une autre manière, pas de celle dont j'aurais cru. Voilà, je ne suis pas allée la voir avec un bébé dans les bras, on prend le pour les vacances. Mais je suis allée la voir, on a repris une nouvelle relation. Qui a été un cadeau, même si, évidemment, comme on a dit au début, il y a ce choc et cette violence d'un diagnostic, mais après, il y a toute la vie qui est arrivée ensuite et la manière dont on a pu la chérir et œuvrer à la rendre belle. Je crois qu'elle a eu de très beaux moments dans cette maladie, par l'entourage également. Et puis, ça change une façon d'être au monde, ça fait... Voilà, on réalise la fragilité des choses, y compris de sa propre pensée. Il y a évidemment toute la question de la génétique qui traverse un peu le livre aussi, où moi, je refuse de faire ces fameux tests, mais on me propose de faire un test pour savoir si on vient d'une forme autosomique dominante de la maladie, ce qui veut dire des maladies où on se transmet le gène de génération en génération. Moi, j'ai déjà un grand-père qui l'a eu, beaucoup plus âgé, pas à 50 ans, mais je sais qu'a priori, on fait partie des gens à risque, donc ça vous calme aussi, de se dire « Ah, j'ai ma pensée, mais est-ce qu'un jour elle m'échappera ? Et quelle sera mon existence ? Et comment la rendre digne ?» Voilà, et donc de vivre tout ça, oui, ça calme, et dans le lien à l'écriture aussi. Avant, j'écrivais plein de romans sur les jeunes de la génération Y, un peu cynique. Je crois que ça a complètement arrêté le cynisme. Il y a toujours beaucoup d'humour et d'ironie dans mon rapport au monde, mais ça m'a gommé, ça m'a enlevé le cynisme pour toujours. On n'a plus envie d'être cynique et rance quand on est confronté à ça, parce que ça rend plus beau soi, le monde et les autres, de vivre des choses aussi définitives et si proches des bascules. Et ça a gommé complètement ça en moi, et j'espère que ça ne reviendra pas. Parce que j'adorais être cynique, mais en fait, c'est pas très beau. Et c'est pas très beau dans ce que ça dit, même dans l'écriture. Et je crois que j'ai envie d'être dans une écriture qui est... Voilà, je me suis mis à lire Christian Bobin. Enfin, à être aussi beaucoup plus dans la tendresse. Et c'est pas, comment on dit, en ce moment, on critique beaucoup cette idée de la joie, en disant, oui, mais la joie, elle est socialement située, on peut se la permettre. Bien sûr, tout est condition matérielle. Et ma mère, elle avait les conditions matérielles réunies, plus des aides de l'État, pour qu'elle ait une fin de vie correcte. Ça, évidemment. Et il faut un hôpital public qui fonctionne, et il faut des moyens pour les soignants. Enfin, tout ça, c'est politique. Mais par contre, on peut faire un choix autre que celui du cynisme. Et dans un monde qui va si mal et où on a besoin de beaucoup de force pour nos combats, moi, je crois beaucoup, au contraire, qu'on a besoin de cultiver des petites cabanes, des lueurs d'espoir, des feux de camp, des choses qui nous permettent d'avancer. Et je crois que ça, ça a transformé beaucoup mon écriture. J'avais plus envie d'être bravache et insolente, quoi, parce que ça m'a calmée, quoi. Et ça, je pense que c'est une magnifique transmission et aussi une chose qui m'émeut beaucoup. Déjà, évidemment, je suis la fille de ma mère, donc si je suis comme je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Merci à elle. Et aussi, dans une rencontre en librairie, donc je racontais, ma mère disait beaucoup, elle s'autodépréciait, elle disait beaucoup « je suis nulle ». Une phrase qui revient beaucoup, revient beaucoup, moi, quand je donne des ateliers d'écriture, d'ailleurs, des femmes de son âge, souvent, qui sont profs à la retraite, donc je suis là, oh, et qui disent, mais moi, je suis nulle, ce que j'écris, c'est nul, ça vaut rien, alors que c'est des femmes qui écrivent des choses sublimes depuis 20 ans en cachette. Et donc, je disais, voilà, c'est le complexe de la sorcière, c'est Isabelle Sorrente, c'est cette autodépréciation de soi permanente, cet autodénigrement. Et là, il y a une jeune femme qui a pris la parole, et qui a dit, enfin même une femme, et qui a dit, bah moi je suis une ancienne élève de votre mère. Et je voulais vous dire que ce je suis nulle, cet effacement dont vous parlez, dans ces cours, c'était une façon de laisser la parole à chacun, de s'effacer pour laisser place, et que c'était quelqu'un qui nous parlait sans arrêt de féminisme, sans arrêt d'émancipation, qui nous disait vous pouvez tout faire, qui nous prenait après la classe en nous disant mais va dans telle ville faire une prépa, mais vas-y, va plus loin, tu peux y arriver. Et en fait, elle nous a toutes poussées. C'était quelqu'un qui était très doux et très mentor. Et je me suis dit, waouh, mais c'est magnifique. Et en effet, en fait, le regard qu'on a soit sur sa vie ou sur celle de ses parents, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont transmis, ce qu'ils se transmettent. Et je me suis dit, bon, bah, génial, quoi. C'est très beau aussi de laisser place à l'autre pour le pousser à aller plus loin. Et je crois que ce qu'elle a fait aussi, très fort.
Et elle l'a fait pour vous, et on l'en remercie parce que on est très contente de suivre votre travail. Et en même temps, il y a autre chose dont vous parlez. Alors, il y a cette histoire de transmission potentielle de la maladie, mais il y a autre chose, c'est bien sûr l'héritage de l'histoire. Et ça, on le voit bien dans votre livre qui démarre avec beaucoup de force et de violence aussi à cet endroit-là. Puisque vous parlez, il y a une histoire de prénom. Votre mère s'appelle Marie-Pierre, du Pierre qui était le prénom de son grand-père. En même temps, elle va perdre un frère à 17 ans. Et donc, il y a comme ça quelque chose de la mort qui rôde et qui est là. Et de cette femme que vous décrivez en disant qu'effectivement, elle retrouve ses copines après le catéchisme pour boire du thé et qu'elles sont toutes dans ce principe du goût de la dévotion. Et à cet endroit-là, on voit bien un effacement, pour le coup, volontaire. En tout cas, vous nous invitez à nous poser la question sur une forme comme ça d'un temps où on pourrait être pas complètement présent à qui nous sommes, comme si quelque chose était en sourdine.
Un des livres préférés de ma mère, c'était La femme gelée d'Annie Arnaud. Donc, pour moi, tout est dit. Oui. À partir de là, où c'est Annie Arnaud qui quoi, elle est à Annecy, qui raconte qu'elle s'enlise avec l'enfant qu'elle appelle le Bicou. Et elle dit, je déteste Annecy, c'est là que je me suis oubliée, c'est là que je me suis abîmée. Enfin, je n'ai plus exactement la formule. Donc oui, il y avait quelque chose de cet ordre de l'effacement. Et en même temps, moi, la question que j'ai voulu me poser, pourquoi aussi peut-être le hasard, alors il y a bien sûr au hasard Balthazar, mais c'est vraiment quand quelqu'un tombe malade, la question qu'on se pose en permanence, c'est pourquoi ? Pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Et du coup, j'ai lancé une sorte de litanie des peut-être. Peut-être Balthazar, peut-être ci, peut-être ça, en me demandant Est-ce que c'est la charge mentale? Est-ce que... On sait par ailleurs que les mères célibataires sont plus susceptibles, si jamais elles ont un terrain, de développer des Alzheimer précoces, parce que c'est tout simplement une surcharge neuronale, une surcharge du cerveau qui peut entraîner plus vite une dégradation cognitive. Il y a des études qui ont été menées là-dessus. Est-ce que c'est peut-être le transgénérationnel? Est-ce que, en effet, si on a eu un grand-père déporté qui n'en a jamais parlé, qui s'appelle Pierre, que son propre père s'appelle Pierre, puis qu'on s'appelle Marie-Pierre parce qu'on est né le lendemain du jour de sa mort, est-ce que ça ne crée pas une sorte de ramification? Est-ce que c'est l'épigénétique? On sait que des souris soumises à des traumatismes, elles développent un diabète. 3 générations plus tard, les souris qui n'ont pas vécu le traumatisme ont toujours ce diabète. Est-ce qu'il y a quelque chose, évidemment, de l'ordre de l'horreur, de la déportation? Mon arrière-grand-père était résistant, il a été déporté à Buchenwald. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se jouer? Est-ce que ce sont les synchronicités? Moi, je joue beaucoup avec les signes, les dates, parce qu'évidemment, quand la vie n'a plus de sens, on a besoin de se raccrocher à des choses, au réel, justement, et à essayer de tisser pour le réenchanter. Moi, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Est-ce que peut-être, bon, puis peut-être le hasard, évidemment, peut-être la génétique, est-ce qu'on est tous atteints de, est-ce que dans nos génomes, dès le début, et dans notre ADN, dès la formation du premier zygote, il y a déjà le fait qu'on va avoir cette maladie à tel âge? Donc j'ai beaucoup joué avec cette litanie des peut-être, et j'ai répondu peut-être le hasard. Évidemment, peut-être la fortune, et puis c'est la question des héros tragiques aussi, moi que j'aime de la tragédie, mais pourquoi le fatum s'était inscrit, tu viens d'une lignée maudite, ou Roméo et Juliette, voilà, notre malédiction est inscrite dans les étoiles, donc j'avais envie de jouer avec ça, avec ces tragédies modernes que sont les maladies, et je trouve d'ailleurs que dans la question de la génétique, on est vraiment dans quelque chose qui me fait penser aux Atrides, ou aux devins qui essaient de lire l'avenir, là on regarde, c'est les scientifiques, nos nouveaux devins, qui lisent dans nos ADN, qui peuvent proposer des modifications d'ailleurs embryonnaires, des sélections, si on veut faire des enfants, comment on détruit des lignées frappées par la catastrophe? Mais en même temps, ces lignées n'ont-elles pas le droit de vivre? Donc c'est ces questions-là, en tout cas, qui m'ont animée, mais j'ai beaucoup joué avec ces questionnements, en me demandant, est-ce que c'est l'effacement? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Évidemment qu'on n'a pas la réponse, et heureusement qu'on l'a pas, d'ailleurs.
Est-ce que d'écrire ce livre a changé votre rapport au mot peut-être?
Peut-être. Non, mais j'adore me dire peut-être. Enfin, peut-être, on ne sait pas. Et c'est très, très réconfortant. Et même si on savait, c'est ta génétique, oui, mais un gène ne fait pas un destin. Ça, c'est aussi une super médecin qui me l'a dit. Elle m'a dit, mais un gène ne fait pas un destin. Et donc, oui, on peut vouloir une explication rationnelle à pourquoi, mais il neige où est le sens. Encore une fois, moi, c'est cette espèce de beauté-là fragile qui a changé, en tout cas, dans mon rapport au monde. Et ça aussi, c'est un cadeau que font les personnes qui sont atteintes de maladies à leurs proches. Et on a tant à apprendre d'elles et eux si on accepte de changer un tout petit peu notre rapport à la démence et à l'efficience. Si nous-mêmes, on accepte qu'on rentre dans une zone de bizarrerie, mais cette zone de bizarrerie, elle est riche et profonde.
Dans ce livre, et vous l'avez évoqué aussi là pendant cet entretien, mais il y a en filigrane aussi la présence de la science, la présence des médecins, la présence des accompagnants, et puis surtout des données, comme vous le dites. Et on apprend que le corps ne vieillit pas tout à fait comme on l'imagine, par exemple. Que des chocs traumatiques vont laisser des lésions qui sont irréparables, des pertes en tout cas qui sont irréparables. Comment la présence de la science s'est infiltrée dans votre rapport à cette histoire que vous viviez pleinement?
Je pense que quand on est confronté, qu'importe le parcours, on va dire, régulièrement ou moins régulièrement à l'hôpital, à des soignants-soignantes, et que soi-même, on est, on appelle ça les savoirs profanes, quoi. On n'est pas sachant, on n'est pas expert, on ne connaît pas. Soit on est écrasé par cette idiosyncrasie, par ce langage extrêmement stéréotypé, technique, qui parfois va très vite, on ne le comprend pas. Et puis, il peut y avoir avoir si on en a la possibilité, le temps, l'envie et l'énergie. Là aussi, c'est une question de privilèges sociaux. Mais pour moi, c'est très important de replacer tout ça dans son contexte. On peut développer, on peut devenir un patient expert. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle ça. Moi, j'ai été, en tant que personne très curieuse, j'ai voulu devenir une de mes premières réactions. Bah, c'est ce qui m'a été transmis aussi, ça, c'est « cherche le savoir le plus possible ». Donc, je me suis énormément renseignée et j'ai développé ma petite expertise. Et puis, à l'époque, j'étais journaliste, donc j'ai même mené tout un podcast où je suis allée rencontrer des soignants, des scientifiques, des chercheurs, des chercheuses. Et j'ai mené un podcast autour de la question de l'Alzheimer précoce. Au tout début de la maladie de ma mère, parce que je voulais tout savoir, tout comprendre, savoir ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment, etc. Et après, la manière dont ça a changé, oui, c'est d'avoir accès à des données nouvelles, mais c'est aussi de se dire qu'on vit dans un... La question aussi de la relation de soins m'a beaucoup questionnée, et de la bientraitance ou de la maltraitance médicale. On vit dans un hôpital public en crise. On vit dans des services de la santé qui sont saturés, pressurisés. Des soignants, des aides-soignants, aides-soignantes, auxiliaires de vie, on le sait, qui ne sont pas correctement rémunérés, qu'on a dit essentiels pendant le Covid, puis qu'on a zappé comme ça, alors qu'ils font les métiers clés de voûte de nos sociétés, mais de manière tellement réelle et profonde que c'en est aberrant de se dire qu'ils gagnent le SMIC ou moins. Moi, j'ai aussi j'ai vu les dysfonctionnements de cette machine sans jamais être fâchée contre les soignants ou les soignantes, en me disant le système est tellement à bout de souffle que le travail ne peut pas être fait dans des conditions correctes. C'est impossible. Nous, on a eu une annonce diagnostique, ça s'appelle comme ça, le moment où un médecin vous dit que vous allez peut-être passer un sale quart d'heure ou voir de mauvaises années dans les temps à venir, qui a duré 15 minutes. Et qui avait 40 minutes de retard, et ça a duré 15 minutes. Et là, j'étais à une rencontre en librairie, il y a quelqu'un qui a pris la parole, et il a dit « Mais moi, pour mon mari, c'était par téléphone ». Et là, il y a une autre soignante qui s'est levée dans l'assemblée, c'était une rencontre littéraire agitée, et qui a dit oh, « Mais ça, c'est impossible, on n'a pas le droit, enfin, ce n'est pas dans la déontologie médicale, on ne peut pas faire une annonce comme ça par téléphone. » Ouais, mais c'était hyper loin, service saturé, 2 heures de trajet, ça m'a aussi permis de... C'est un langage des sachants et c'est des savoirs qu'on peut acquérir ou pas, mais on n'a pas le temps de nous les transmettre parce que ça va trop vite on a enlevé tellement de personnel et de lits que les soignants eux-mêmes sont à bout de souffle. Alors j'ai rencontré des soignants extraordinaires qui pouvaient faire leur métier dans de bonnes conditions, mais c'est pas le cas partout. Et puis on n'a pas accès aux mêmes services de soins, enfin en tout cas de ce que moi j'ai constaté, de ce qu'on transmet aussi dans mes déplacements, selon qu'on soit suivi dans le centre spécialisé le meilleur nanana à Paris ou dans des centres autres. Donc il y a aussi une grande question de la décentralisation et des déserts médicaux à soulever. Bon voilà, je pars dans un point de vue plus politique que littéraire, mais aussi parce que toutes ces questions le sont profondément. Et même le fait que moi, je puisse avoir accès... Voilà, ma mère, elle a fini sa vie dans une colocation inclusive pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Mais tout ça, c'est possible parce que moi, j'avais les ressources pour le mettre en place. Parce que sinon, les personnes qui ont Alzheimer précoce, on les retrouve où ? Dans la rue. Parce que du coup, c'est des descentes aux enfers, de gens qui perdent leur travail, leurs proches, leurs relations. S'ils sont isolés, bah, ils vont finir très vite dans la rue. En hôpital psychiatrique sous sédatif ou en EHPAD sur dérogation. Et les EHPAD, il y en a des formidables, mais il y en a aussi, on sait ce qui se passe. Donc c'est ça en fait, la destinée qui attend ces personnes. Il n'y a rien qui est prévu pour elles et eux spécifiquement. Oui, pour moi, c'est des enjeux de santé publique qui sont à questionner par la littérature. Voilà.
Et aussi de l'altérité, hein, de toute façon. Il y a cette dimension politique dans votre livre, parce que comme vous venez de le dire, il y a le lien à l'autre est très présent. C'est une question qui hante votre livre et pas que ce livre-là. Votre travail en général, j'ai envie de dire finalement. On retrouve hein, dans vos travaux une grande question, une grande préoccupation de l'altérité. Dans votre livre-là, il y a des passages vraiment très émouvant, très bouleversant, quand votre mère crie oui à ce concert, vous l'emmenez à votre frère, ou même de vous le raconter, j'en suis encore émue. Il y a ce voyage que vous faites avec elle, où vous l'emmenez en voyage avec votre frère. Il y a du fait de prendre soin de l'autre et en même temps de la confrontation aux autres, puisque dans cette colocation dont vous parlez dans votre livre, vous racontez aussi bien le lien aux soignants, mais aussi aux autres personnes qui sont là. Et puis, vous racontez aussi votre entourage et la façon dont il va vous considérer sur cette histoire et de ce que vous êtes en train de vivre vous-même. Mais en tout cas, de façon centrale, vous nous invitez, politiquement aussi, culturellement, à réfléchir à la question de l'altérité et de notre façon d'envisager, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la présence dans l'espace public, mais dans l'espace familial aussi, parce qu'il est beaucoup question de ça. Et c'est aussi voilà, une question que je voulais vous poser sur les termes « garder » ou « abandonner » qui sont très présents dans votre écriture. Et je voudrais savoir où vous en êtes de ces deux mots.
Garder, abandonner. Intéressant, garder, abandonner, oui, parce que je vois, parce qu'en effet... toutes les personnes qui l'ont vécu le reconnaîtront, mais laisser son parent, placer son parent, comme on dit, c'est une sensation de trahison, d'abandon, de... Alors, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des copines qui commencent à laisser les enfants à la crèche ou à l'école, c'est le drame. Mais je pense que, c'est toujours dans cette inversion si cruelle. Là, l'école, c'est pour, certes, qu'ils nous quittent, mais là, pour que l'enfant nous quitte un jour, mais là, c'est fait d'une autre manière pour que la personne quitte progressivement notre présent. Donc, mais oui, après, je pense que quand on vit dans des maladies qui sont... traversé par le fantôme, le spectre de ces maladies-là. Évidemment, il y a sans arrêt cette question des souvenirs et du rapport qu'on va tisser avec la mémoire et qu'est-ce qu'on garde en mémoire et qu'est-ce qu'on abandonne et la peur d'oublier, forcément, qui nous est transmise. Évidemment, moi, d'avoir vu ma mère vivre tout ça, tu te dis oh, « Et moi, dans combien de temps, peut-être, ou jamais, ou un bus me percutera. » Et comme Roland Barthes à la sortie dans la rue des écoles, il se passera autre chose. Mais je plaisante, mais je réfléchis toujours au mort à la con et je me dis « Ah, celle-là, elle est pas mal. » mais ça trouve je vivrai jusqu'à 95 ans et je serai là toute ma vie j'aurais eu peur de ce que je vais abandonner, de ce que je dois garder, tout ça pour ça. Mais bien sûr que c'est très 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 présent et moi je crois qu'une des questions justement c'était vis-à-vis de la notion de dignité dont on parle beaucoup dans les questions actuelles autour du droit à mourir dans la dignité, mais qu'est-ce que c'est cette dignité, comment on la garde, comment on l'abandonne pas, et comment la dignité c'est pas ce qu'on croit aussi. On doit aussi abandonner les conceptions qu'on se faisait de la dignité. Par exemple, il y a un film que j'ai pas vu, mais qui s'appelle Still Alice, parce qu'on m'a dit « Ah, tu devrais le voir, c'est sur Alzheimer précoce », et j'étais là « Oh, franchement, j'en peux plus. C'est bon, je crois que j'ai donné dans la recherche. » Mais on m'a dit « Oui, c'est une dame, elle prévoit son suicide, et elle veut se suicider le jour où elle connaîtra plus le prénom de ses enfants, parce que pour elle, c'est la perte de la dignité, c'est trop beau. » Alors, j'ai pas vu le film, peut-être que je déforme, mais je crois que c'est ce qu'on m'a dit. Et moi, je me suis dit « Mais... c'est fou, parce qu'en ces cas-là, ma mère, il fallait la tuer au jour 2, parce que comme elle a perdu très très vite le langage, dire nos dates de naissance, ou même écrire nos noms, c'était très bouleversant. Elle faisait des lignes et des lignes et des lignes de nos prénoms. J'ai retrouvé des cahiers où elle écrivait « Agathe, ma date de naissance, Agathe », pour garder aussi ça, pour essayer de ne pas l'oublier, de s'en souvenir. C'était déchirant, avec une écriture de plus en plus enfantine, etc. Mais si j'avais décidé que la dignité, c'était ça, très vite, en ces cas-là, ma mère avait perdu sa dignité. Et quoi ? Donc, il faut changer complètement son regard. C'est pas ça la vie digne et c'est pas ça la vie bonne. Et ça nécessite de déconstruire tout ce qu'on pense nous du qu'est-ce que c'est être valide. Donc ça, c'était un immense travail. Et moi, attention, j'ai pas été aidante 24 heures sur 24 au quotidien. Quand on est aidant 24 heures sur 24 au quotidien, on devient dingo. Il faut se faire aider, justement. On n'a plus les capacités, je pense, de se dire comment conserver la vie bonne jusqu'au bout et déconstruisons nos manières de faire et inventons d'autres manières de communiquer. Enfin, c'est extrêmement fatigant. Moi, je voyais ma mère régulièrement. Il y a des moments où je l'ai vue tous les jours. Mais pendant un long moment, elle était à Toulouse à 800 km. Donc, j'avais le temps de reprendre des forces avant de revenir. Mais c'est vrai que changer cette idée-là et ne pas abandonner, ne pas lâcher la vie, ce qui fait sa substantifique moelle à la fois terrible et émerveillante, comme dirait Christian Bobin, il dit qu'elle a deux visages et qu'il y en a toujours un des deux qui se tourne vers nous comme le soleil. J'adore, ça me fait beaucoup de bien de penser à ça. Et ben ça, c'était une ligne directrice et une ligne de conduite et dans l'écriture, de ne pas abandonner cette dignité-là et qu'est-ce que je donnais de ma mère ou pas, et de sa dégradation ou pas aux lecteurs et aux lectrices. Et puis, il y a un moment où la vie n'a plus été digne pour elle, dans la phase terminale de la maladie, qui a été une phase très, très, très dure, ultra sédatée, ultra médicamentée, où elle était dans, vraiment, les 6 derniers mois, dans une souffrance psychique et physique terrible. En plus, comme elle avait ses crises d'agressivité, elle se faisait hyper mal. Donc, elle avait toutes les côtes cassées. Elle passait sa vie à faire des allers-retours aux urgences. Il la gardait 3 jours des fois parce que les urgences étaient saturées. Du coup, il ne savait pas qu'elle avait Alzheimer. Du coup, ils essayaient de comprendre pourquoi elle ne parlait pas. Ils croyaient qu'elle avait un traumatisme crânien. Et nous, on était là, mais elle est malade depuis 6 ans. Rendez-la nous. Arrêtez de l'hospitaliser tout le temps. Ça ne sert à rien. Puis, elle est dans un couloir avec 150 autres personnes. Enfin, je vous conseille. Les urgences en août, ce n'était pas fun. Et du coup, je me suis dit, ah, la vie n'est plus digne, là, en effet. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on garde plus et qui est abandonné par la société aussi. Qu'est-ce que l'État pourrait faire pour moi? Ça a été une grande question. On parle beaucoup de droit à mourir anticipé pour ces maladies-là, hein, qui n'est pas débattu dans les lois à fin de vie qui auront lieu en fin d'année, enfin en juin. Mais là, je me suis beaucoup dit, ah là, la société nous lâche, nous abandonne. Déjà, on a dû déployer beaucoup de forces pour maintenir parce que tout était fait pour que ce soit écarté. On m'a déjà dit une fois, vous, votre mère, vous devriez la mettre tout de suite en EHPAD, pourquoi vous vous embêtez? C'était une dame de la maison départementale des personnes handicapées. Et là, on dit, ah bah non, on ne va pas l'abandonner tout de suite, on ne va pas la lâcher. Mais là, il y a eu un moment, en effet, assez désespérant où je me suis dit, les conditions ne sont plus réunies pour que ce rapport aux autres soit maintenu. Et là, c'est les soignantes qui ont pris le relais, les aides-soignantes de cette colocation, et qui ont dit on la gardera jusqu'au bout, ta mère. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on va pas la mettre en HP. Enfin, elle va rester avec nous, et cette promesse inestimable a été tenue. Donc, ouais, je crois que sans ce rapport aux autres, en tout cas, est-ce que la rencontre est encore possible? Que ce soit serrer une main ou en silence ou aller vers l'autre, vraiment.
En tout cas, votre texte a cela qu'il rend, qu'il donne tout simplement beaucoup de dignité à votre maman et à travers elle à tous les malades ou en tout cas tous les corps qui sont un peu exclus de la société, parce que votre langage est magnifique. Votre texte est puissant, mais tellement beau qu'il y a beaucoup de dignité à l'endroit de votre écriture de cette façon-là. Il y a de l'élégance. Vous donnez de l'élégance à l'histoire. Et ma dernière question, Agathe Tiernay, ce sera celle-ci. Est-ce que toute cette histoire a changé votre rapport à l'amour?
Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Déjà, ça a déromantisé mon rapport à l'amour. dans le sens où vivre si fort l'amour filial, évidemment, ça transforme des choses et ça ouvre à d'autres possibilités d'aimer. Donc, je pense que ça, en effet, quoi, ça élargit et ça ne concentre pas sur une personne ce lien-là. Oui, je pense que c'est des zones qui s'agrandissent en soi. Et bizarrement, d'avoir rencontré la mort si près, puisque j'étais là quand ma mère est partie et que j'ai vécu ce moment-là. C'est très bizarre à dire, mais je pense que la littérature le permet. C'est un moment d'amour extraordinaire. La mort, quand c'est bien fait, quand c'est fait dans des bonnes conditions, encore une fois, et c'était le cas, on était en HAD, en hospitalisation à domicile, donc des soins palliatifs à domicile, puis on a eu un petit coup de pouce d'une très gentille médecin pour que ça se passe bien. ouais, c'est un moment d'amour absolu, de la vie qu'on quitte, de ce qui va se passer après. Et ça réconcilie, ça apaise beaucoup de choses aussi du long parcours de maladie qu'on vient de vivre. Et ça permet, voilà, à ce moment-là, moi, j'ai vraiment retrouvé ma mère aussi dans sa mort, d'être là à ce moment-là, qu'elle nous appelle de mille manières subtiles et en synchronicité, bah, c'était très, très beau. Il y avait le chien de mon frère qui était à ses pieds. Il y avait mon frère, ma belle-sœur, ma compagne de l'époque, moi. Enfin, on a fait vraiment une veillée et dans ce moment-là. Et c'est ça qui est... Bah, justement, vous dites, ça me touche beaucoup, bien sûr, que vous trouvez qu'il y ait quelque chose aussi d'élégant. Mais c'est quelque chose... Il y a tellement peu d'endroits où on peut parler de ça. Et merci de me permettre de le faire d'ailleurs. Mais il n'y a pas d'endroit où ensuite, moi, dans le deuil, j'ai pu raconter la maladie et j'ai pu raconter l'expérience de la mort. Même si j'ai des amis formidables, c'est très dur de se mettre au café avec quelqu'un et lui dire « je vais te raconter la mort de ma mère ». Enfin, les gens posent une ou deux questions et puis tout le monde est très gêné, ça s'arrête là. Et cet endroit me manquait cruellement, et je pense qu'il nous manque cruellement, un endroit pour parler de cette forme d'amour, en fait, qui est un accompagnement aussi. Et puis, et du coup, le livre, la littérature fait partie de ces recoins secrets dans lesquels on peut déposer les choses. Ou le théâtre, pour moi, qui est de l'ordre de la cérémonie, du rituel. Mais moi, en tout cas, je manque cruellement de ces lieux. Et j'ai eu l'impression que cet acte d'écrire, c'était un endroit où je pouvais inscrire et ce rapport à la finitude, à la dépendance, à la mort, mais qui était aussi un acte d'amour pour moi. Et puis après, ce qui est fou, c'est comment ça continue après aussi, ensuite, finalement... Je prolonge par ce livre, et c'est là où je reviens à mon égoïsme du début, mais j'en suis ravie, hein, c'est bien d'être égoïste. Mais je prolonge ce dialogue avec ma mère, et ce livre est sorti 3 ans après son décès, la même semaine quasiment que son anniversaire, et plein de gens se sont mis à parler d'elle. Et ma grand-mère m'a dit « Ah, je croyais que tu avais oublié ta mère ». J'étais là, parce qu'au début, je disais pas que j'écrivais ce livre. J'ai mis beaucoup de temps à le lire. Et j'étais là, mais non, évidemment non, mais c'était trop dur, on n'avait pas d'endroit pour parler d'elle. Et ce livre, il a rouvert aussi une zone de dialogue possible, ou en tout cas, je sais qu'elle est un peu contenue là. Et ça me permet, moi, d'avancer dans ma vie sans mère, parce que de poursuivre ce dialogue, quelque part. Donc, j'en suis infiniment reconnaissante.
Et j'imagine sans difficulté qu'il ouvrira le dialogue dans beaucoup d'autres familles, hein, grâce à vous. Ce livre est extraordinaire. Je suis très très contente de vous avoir interviewé ce matin, Agathe Charnay. Je vous souhaite le meilleur pour ce livre.
Merci, merci beaucoup pour toutes vos questions.